On est aujourd'hui le mardi 9 Adar et on est le 11 mars. Et aujourd'hui le cours sera pour la réussite dans tous les domaines de Aaron, Dov Chaim, Ben Rivka et Joël. En tous les cas, ça devait arriver et c'est arrivé. On y est arrivé, on termine aujourd'hui. Non, pas encore vraiment l'histoire, mais on termine le livre de Shmuel Beth, qui d'une certaine manière termine l'histoire du roi David. On aura encore une toute petite histoire encore, c'est l'histoire de cet essai à nouveau de révolte de Adoniaou, pas contre David, mais pour devenir roi à la place de Salomon. On reparlera encore un petit peu de David, mais en tous les cas, c'est pas pour rien qu'on termine le livre de Shmuel Beth aujourd'hui, parce que la véritable histoire de David se termine aujourd'hui. Et donc, on a une consolation, c'est qu'on continuera à être avec lui grâce au psaume pendant encore très longtemps, mais quoi qu'il en soit, tout a une fin, et la fin de chaque chose est bien sûr le début d'une nouvelle. Donc il n'y a jamais de fin, il n'y a qu'un renouvellement. Vous imaginez bien que la fin de l'histoire du roi David doit forcément être l'apogée de quelque chose d'absolument sublime. Et effectivement, on ne va pas être déçu, j'espère. Si on est déçu, ce sera à cause de moi, c'est moi qui ne serai pas à la hauteur de ce texte merveilleux qui termine donc l'histoire du roi David. On va d'abord le lire, le traduire, et puis après je vais vous montrer véritablement, tant par des preuves dans le texte écrit lui-même et tant par des preuves liées à la tradition orale, que véritablement ce texte est une véritable prophétie qui parle de notre époque, qui parle de l'époque contemporaine jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à la reconstruction du troisième temple, comme on le verra, quelque chose d'absolument sublime. Et on demande au maître du monde de nous donner les forces et le mérite d'être à la hauteur de sa Torah. On se rappelle donc que David, la semaine dernière, avait choisi, il avait trois possibilités, c'est le cours que j'ai fait sur, entre autres, le problème, entre autres, ici en Israël, l'armée, pas l'armée, etc. C'est bien que ce n'était pas un cours là-dessus, mais on en a profité pour. Et donc, on se rappelle qu'il y avait donc trois options qui étaient données à David, et il fallait qu'il choisisse une punition. Je ne reprends rien du cours de la semaine dernière, ceux qui veulent comprendre ce que je dis maintenant, qu'ils aillent voir le cours de la semaine dernière. Et donc finalement, il a choisi l'épidémie. L'épidémie, comme on le sait, on le répète, a duré 3 jours. « Vaïten Hachem dever beYisrael mea boker adet moed » depuis le matin jusqu'à la fin du temps qui avait été décidé. « Vayamot ha'am midan ve'ad bercheva » Il y a eu donc l'épidémie qui a fait des ravages du nord au sud. Nord au sud, dans le langage biblique, se dit de Dan à Bercheva. « Shivim elef ish » 70 000 personnes. C'est énorme en 3 jours. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et maintenant, on commence le cours d'aujourd'hui. « Vayishlach yado amal'ar Yerushalayim » Le mal'ar, c'est-à-dire la force, je ne traduis volontairement pas par la traduction malheureusement connue, ange, qui est une aberration totale. La force, mal'ar, qui veut dire l'envoyé en hébreu. L'envoyé, la force que Hachem avait envoyée, c'est-à-dire donc cette épidémie, elle a commencé à se diriger vers Yerushalayim. Donc, Vaishlach Yado Amal'ar, Yerushalayim, le mal'ar a commencé à vouloir frapper Jérusalem. Les Shachata pour la détruire entièrement. C'est-à-dire que, on pourrait se poser une question, si le Malhar a commencé à Dan, et qu'il descend jusqu'à Bercheva, ben automatiquement il passe par le milieu, il passe par le centre qui est Jérusalem. Or, comme le disent les commentaires, dans un premier temps, le Malhar est passé au-dessus de Jérusalem, n'a pas voulu toucher Jérusalem. Il a d'abord touché du nord au sud en passant par tout ce qu'il y avait du nord au sud, et il se réservait Jérusalem à la fin. Jérusalem, c'est toujours l'endroit qu'on attaque en dernier, puisque c'est l'endroit qui symbolise d'une certaine manière la royauté d'Israël, la force d'Israël, la nation d'Israël. Donc le Malhar, pour justement, s'il avait attaqué Jérusalem dans la foulée des autres, ça n'aurait pas mis suffisamment en évidence que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et donc, justement pour mettre en évidence le dernier coup terrible, il épargne dans un premier temps Jérusalem, et maintenant il revient, une fois qu'il est à Beersheba, il revient à Jérusalem pour les Shahata, pour détruire Jérusalem. Mais à ce moment-là, Vayinachem Hashem el Ara'a, Hashem à ce moment-là est revenu sur son décret. On verra dans le Malbim pourquoi il est revenu, le texte ne nous dit pas, puisqu'au contraire, le texte nous dit que le Malar avait l'intention. Or, on sait très bien qu'un malhar n'est qu'un envoyé d'Hachem. Donc s'il avait l'intention, c'est que forcément il avait été mandaté pour. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Hachem lui dit « Non, finalement je regrette. » Est-ce que Hachem change d'avis? De quoi parle-t-on? Mais pour l'instant, on lit. « Vayinachem Hachem el ara'a vayomar vayomer le malhar » Hachem dit au malhar. C'est bien sûr un langage parabolique, un langage biblique. « Le malhar amashrit ba'am rav » Ça suffit. « Ata » Ça suffit maintenant. Eref yadecha, laisse tomber. Ou malhar Hashem aya imagoren aravana hayevusi. Mais le pélé est, c'est qu'au moment où Hashem dit au malhar arrête-toi, le malhar se trouvait précisément dans la grange de Aravana, le Jébuséen, qui est l'endroit du futur temple. C'est-à-dire que là où le malhar s'arrête, c'est à l'endroit où on va construire le temple, plus précisément l'endroit précis du futur Misbéar. N'oublions pas qu'à cette époque-là, personne ne savait encore où se trouverait le temple. Certains commentaires, à partir de l'Agmara, disent que Shmuel et David avaient déjà trouvé la montagne. Mais l'endroit exact sur la montagne, puisque le Har HaBayit, la maison sur la montagne, c'est donc c'est une montagne, comme on le sait, une colline. Enfin non, c'est une montagne, puisqu'on est quand même à 1800 mètres d'altitude. 1600-1800 mètres. 800 mètres d'altitude. On est à 800 mètres d'altitude, pardon. Un peu comme les Vosges. Donc c'est une petite montagne. Mais quoi qu'il en soit, l'endroit avait été trouvé. On n'avait plus de doute que ça serait sur cette montagne-là. Mais où, ça n'avait pas encore été révélé. Et ça va être révélé à ce moment-là. Hachem s'arrange pour que le Malhar s'arrête à l'endroit où va être construit le Misbéar. Donc l'endroit le plus important du temple. On vient de commencer le troisième livre, Vayikra. Vayomer David el Hachem, Beroto et Amalar. Tout d'un coup, David allume une révélation, il voit le Malar. C'est-à-dire qu'il a l'esprit prophétique, David était un prophète comme on le sait, et quand il voit le Malar qui s'est arrêté à cet endroit-là, Vayomer David el Hachem, David s'adresse à Hachem, Beroto et Amalar, au moment où il voit le Malar, Amaké Ba'am, qui était prêt à frapper le peuple, parce que lui n'avait pas entendu, il ne savait pas que justement à ce même moment et à cet endroit-là précis, Hachem avait ordonné au malheur de ne plus continuer. Mais David était encore sous le coup de l'épidémie qui massacrait tout le monde. Et il voit maintenant le malheur se poser en plein centre de Jérusalem, puisque cette colline-là est une colline centrale dans Jérusalem. Et il se dit, ça y est, il va continuer à frapper. Il naît et il dit à Hachem, Anochi Chatati, c'est moi le fautif, comme on l'a vu la semaine dernière. Vanochi Eviti, c'est moi qui suis responsable. Vele Atson Maasu, et ton troupeau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Te inea dechabi ou betavi. Que ce soit moi qui prenne les coups et toute ma famille. C'est-à-dire, il est prêt à endosser toute la responsabilité. Le Balatourim, on le lira pas pour une fois, mais je vous le dis oralement. Mais en évidence que deux dirigeants, et deux uniquement, ont dit à Hachem, frappe-moi plutôt que de les frapper eux. Qui sont été ces deux dirigeants? Moshe et David, bien évidemment. Et donc, ce qui montre la grandeur des vrais dirigeants qui sont prêts, eux, à disparaître pour que le peuple puisse continuer. Il était une fois, bien sûr, dans la Bible. Et donc, il lui dit, donc détruis-moi, mais ne les touche pas. Vayavo Gad el David. À ce moment-là, Gad, qui est, comme on l'a vu la semaine dernière, le prophète qui s'est dévoilé à la fin du règne de David, après Nathan, il est venu, Bayomahou à ce moment-là, donc il est envoyé par Hachem, Vayomerlo, et il lui dit, de la part d'Hachem, Allez, kam l'Hachem, allez, akem l'Hachem, isbar bagoren, ayez-vous, si ne t'inquiète pas. C'est précisément à l'endroit où tu vois le malhar que l'épidémie s'arrête. Mais Hachem m'envoie te dire qu'à l'endroit où tu as vu le malhar s'arrêter, Dans la grange du Yévoussi, c'était une grange avec du foin et du blé, etc. À cet endroit-là précis, tu vas construire le Misbéar d'Hachem. À ce moment-là, Gad révèle à David que voilà enfin l'endroit du futur temple révélé. Waouh ! C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le mal se transforme en bien. L'obscurité se transforme en lumière. C'est précisément, comme explique le Malbim, le Malhar qui était en train de détruire Israël, qui voulait même détruire Jérusalem, c'est ce même Malhar qui révèle à Israël, à David, l'endroit de la connexion entre Dieu et son monde. C'est un exemple extraordinaire, explique les commentaires, pour nous montrer comment fonctionne l'histoire juive en particulier, et d'une certaine manière l'histoire du monde. C'est précisément dans le malheur lui-même que tu trouves la Yeshua, que tu trouves la délivrance, dans le malheur lui-même. 45-48, Auschwitz, création de l'État d'Israël. C'est dans le malheur lui-même que tout d'un coup il y a un sursaut de renouveau. Et ça on le voit ici, c'est le Malhar lui-même qui révèle l'endroit du Beth Amikdash. Vayaral David Kidvarga, tout de suite quand David reçoit cette révélation, que voilà, on a enfin trouvé, dans ce malheur, on a trouvé l'endroit du temple, tout de suite, il se met à accomplir ce que lui a demandé Gad, Kacher Tziva Hachem, selon l'ordonnance d'Hachem. Et donc, il se dirige vers la grange de Arvana. Arvana, c'est un paysan, c'est un Jébuséen. Vayashkef Arvana, Arvana, qui était sans doute en train de travailler de loin, il voit David, toute son escorte. David n'arrive pas seul, c'est le roi qui se déplace, il est en train de monter sur la colline. Vayaret Ameler, il voit le roi, Vayet Avadav, et il voit le roi, les ministres, les princes, Ovri Malav qui se dirige vers lui. Il est pris de panique, qu'est-ce qui se passe? Le roi vient me voir, moi un simple paysan, en plus non juif, c'est un Jébuséen. Vayet Arvana, Vayishtachul Ameler, il sort, il se prosterne devant le roi. Vayomer Arvana, et Arvana lui dit, Madoua ba Adoni Ameler et Lavado, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu m'aurais prévenu, je sais pas, moi je t'aurais reçu, j'aurais lavé la grange, j'aurais préparé à manger, enfin pas à manger, puisqu'il n'est pas juif, mais en tous les cas, je sais pas, moi je t'aurais reçu avec tous les honneurs. Vayomer David, David lui dit, Liknot meimcha et agoren, je veux acheter ta grange. Vous imaginez un roi qui descend marcher au bus, et puis il voit un petit truc qui coûte 15 shekels, enfin. 3 euros, et le roi lui-même est venu pour acheter un truc. Ma grange, je te la donne, c'est ma grange. Je vais pas vendre une grange à un roi, c'est ridicule. Un roi, il peut s'acheter un pays entier, il va pas acheter une grange. Et bien sûr, il voit la tête qui fait, il comprend pas. Le roi serait devenu fou à son âge, il est sénile. Il dit non, t'inquiète pas, c'est pas la grange qui m'intéresse, j'ai pas besoin de tomber. Livnot misbehar l'Hachem. Parce que c'est ici, à cet endroit-là précis, dans ta grange, que va se trouver pendant presque 1000 ans, les deux temples c'est presque 1000 ans, 900 ans exactement, va se trouver, et le troisième temple pour l'éternité, va se trouver le Misbéar d'Hachem. Et si tu acceptes, pourquoi il n'accepterait pas? Mais si tu acceptes, va te atzer à ma gefa me à la âme, si tu me permets de construire maintenant un Misbéar, l'épidémie va cesser. Tous les commentaires posent une question évidente que je viens de suggérer. Depuis quand le roi, il a besoin de justifier la raison pour laquelle il veut acheter cet endroit-là? De même, et s'il n'avait pas donné de raison, vous pensez que Arvana aurait dit non? Qui va refuser un tas de foin à un roi? En plus, c'est évident, tout le monde connaît David, il ne va pas le prendre. Bien que s'il voulait, il pouvait le prendre. Mais il va l'acheter. Non, David est obligé de donner la raison. La raison, c'est pas l'argent, c'est pas ça, c'est même pas le Misbéar, c'est la survie de tout Israël. Regarde, le malheur est prêt à détruire Jérusalem. Pourquoi faut-il convaincre Arvana que vraiment l'enjeu en vaut la
chandelle?
On dit quoi la chandelle?
La peine.
Très bien. On veut la peine. Très bien. On veut la peine. On continue. Quand Arvana entend que ici c'est très sérieux, c'est la vie d'Israël qui est en compte. Vayomer Arvana et David, Yikar, prends tout de suite, que j'ai pas besoin de transaction, un avocat, le notaire, mais prends. Vayal Adoni Ameler Atov, Be'ene Re'e, ce que tu veux faire, fais. Tiens, regarde, je te mets même à ta disposition des vaches si tu veux commencer à faire les premières offrandes. Les olav, amorigin ou kliabakash, je te prête du bois pour allumer l'autel. Prends tout, tout est à toi. Attends, Israël est en danger. Akol natan arvana ameler le meler. Et là, un verset. Hiroshima. Akol natan arvana ameler la meler.
Un roi.
Et tout est donné par Arvana, le roi, au roi. Arvana ne peut pas être un roi, pour deux raisons. À part cet endroit-là, nulle part dans la Torah on l'appelle le roi. Deuxièmement, il est absolument impossible qu'en plein cœur d'Israël, il y ait un autre roi que le roi d'Israël. Parce que, bon, et David, il est bien gentil, il est bien bon, il est tout ce que vous voulez, mais laissez un roi, en plus, non-juif, en plein cœur d'Israël, un roi avec un royaume, une royauté, ça c'est impossible, il n'était pas roi. C'est une des allusions ici de la prophétie absolument incroyable, parce que vous êtes arrivé juste un petit peu en retard, j'ai annoncé ce qui allait se passer aujourd'hui, que la Torah est en train de faire allusion ici à quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Arvana est roi. Arvana n'est pas roi. Il n'y a personne qui règne en Israël à l'époque du roi David, comme à l'époque de aucun roi dans aucun pays au monde. En plein cœur de mon pays, t'es roi, non mais attends. Vous imaginez ? Donc, comment ?
C'est pas une allusion à Melchizedek.
Melchizedek, c'est pas l'époque du roi David, c'est l'époque de Avraham, quand on était des nomades, c'était pas notre terre. Mais à l'époque des rois, même à l'époque des juges, il n'y avait pas de rois non-juifs à l'intérieur d'Israël. Il y avait des populations, des peuplades qui étaient restées, qui avaient une petite autonomie, mais pas un roi, Meler. On peut dire le verset, le culot. « Akol natan harvana a Meler la Meler ». Le verset veut nous faire comprendre ici quelque chose d'absolument incompréhensible. C'est qu'au moment où Arvana lui a donné, il lui a fait sentir, tu sais ce que je te donne ? C'est ma malchoute que je te donne. Non, il n'était pas roi dans le sens de fonction. Mais il prend conscience, et c'est ce à quoi fait allusion ce verset-là, que celui qui a cet endroit, il a la royauté. Celui qui est là est roi. Et puisque maintenant tu viens de me révéler que cet endroit est l'endroit du temple, donc c'est l'endroit de la malchoute, et si c'était entre mes mains, en te le donnant, je te cède ma royauté. Évidemment qu'il n'était pas roi de fonction, mais il avait quelque chose d'une essence de roi, et c'est ce qu'il veut mettre en évidence, mais je vais expliquer beaucoup plus dans quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement un lien entre Beth Amigdash et Malchut. Et la preuve dans notre histoire, il fallait un roi pour découvrir cet endroit-là. Et le jour où on a perdu cet endroit-là, on a perdu la royauté et on ne l'a plus jamais retrouvée. Parce que même à l'époque du deuxième temple, comme il n'avait pas le niveau du premier, on n'a pas retrouvé la royauté de David. Donc on a perdu la royauté de David avec la destruction du premier temple. C'est ce que Arvana lui dit. Si cet endroit-là est à moi, tant que tu ne me l'as pas acheté, il est à moi. Et donc automatiquement, je suis moi, Meller, et je te donne la royauté. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ce que c'est absolument incroyable. J'ai déjà fait allusion à cela dans ces fameux non-juifs qui étaient venus à la rencontre de David lorsqu'il fuyait Jérusalem pour chasser par son fils. Les premiers qui sont venus pour lui montrer qu'ils étaient à ses côtés, c'était précisément des non-juifs, rappelez-vous, qui venaient de Gath. Et là, on voit ici une allusion absolument incroyable, mes amis. Je vous dis, ce texte final, c'est le feu d'artifice de tout ce qu'on a vu. Cette explosion, cette explication absolument incroyable que la Torah fait une allusion au fait qu'un jour viendra où ce sont les nations qui reconnaîtront la royauté d'Israël lorsque un jour les nations reconnaîtront que cet endroit appartient à Israël. À ce moment-là, les nations, c'est elles qui, d'une certaine manière, consacreront la royauté d'Israël. Ça doit passer par les nations. Arvana, ici, incarne les nations qui se trouvent au mont du Temple, qui nous empêchent de reconstruire ou de construire, dans le cas biblique, mais c'est en même temps un passé et un futur, puisque c'est une prophétie. Les nations qui ont cet endroit-là, et donc on ne peut pas avoir le Beth Amikdash, et donc d'une certaine manière, on ne peut pas vraiment avoir la royauté, parce que la véritable royauté d'Israël dépend de cet endroit qui doit être entre les mains d'Israël. Et lorsque Arvana, qui ici est la voix des nations, prend conscience que celui qui a cet endroit-là, c'est lui qui est roi, le verset dit « Akol Natan Arvana, Hameler Lameler » Il n'a jamais été roi, c'était un simple paysan. Non. Parce que la royauté dépend de cet endroit-là. Et la Torah nous fait comprendre que viendra un jour où ce sont les nations qui redonneront cet endroit-là à Israël. De là, j'ouvre une parenthèse absolument fondamentale. Le Har HaBayit ne pourra et ne sera jamais pris par la force par notre peuple, pas même à l'époque du Mashiach. Simplement que les événements seront tels que les nations elles-mêmes nous apporteront la clé et diront « c'est à vous, on s'en va ». Mais ici est l'allusion extraordinaire à ce que la Torah veut nous faire comprendre. En aucun cas cet endroit-là nous sera restitué par la force. Même si nous en avions le pouvoir, nous ne pouvons pas prendre cet endroit par la force. Cet endroit sera donné à Israël de la main de Arvana. C'est ce que, dans son langage à lui, le rabbi disait il y a plusieurs décennies. Le mont du Temple sera récupéré sans que nous ayons besoin de tirer un seul coup de fusil, C'est les nations qui s'en iront et nous le laisserons. Parce que ça, c'est le signe éminent de la vraie délivrance lorsque les nations reconnaissent que le vrai roi, ce n'est pas eux, mais c'est nous. Et ça, c'est le signe de la délivrance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir par la force. Parce que pour qu'elle soit éternelle, il faut qu'elle soit reconnue par la reconnaissance. Et ça, c'est ce qui a marqué ici. Mais on va expliquer un peu plus dans quelques instants. On continue.
Une seconde. Son nom, Arvana, Amelech, il faut prendre Aaron, Hashem, Amelech, Lamelech. Arvana, Aaron, et Hibasof, Aaron, Hashem, Amelech, le maître du monde. C'est le roi qui a donné au roi l'endroit.
C'est ok, prêtre, on peut le comprendre comme ça. Comment ?
C'est un remès de Melchisedec, c'est le prêtre des nations.
Oui, mais encore une fois, on est presque 1000 ans après Melchisedec ici. Vayomer Arvana et la Meller, et on voit que David ne comprend pas, David ne répond pas. David seulement, il est sous le choc. Comment tu te nommes roi devant moi ? Attends, je sais que... On est presque à 90 coups sur le roi David. On a expliqué que c'est du miel, le roi David, quand il veut l'être. Mais quand même, on ne peut pas lui faire un affront pareil. Devant moi, tu te nommes le roi. Attends, déjà, sois content que je te laisse en plein milieu de mon pays, sur la montagne que j'ai déjà, avec mon maître Shmuel, découvert comme étant la montagne du futur temple. En plus, il s'avère que tu es à l'endroit du temple, et tu t'appelles encore le roi, et tu me prends pour qui? Il répond pas, il est bouche bée, il ne sait pas quoi dire. Est-ce que c'est une insulte? Tout de suite, Arvana sent que David risque de mal comprendre. Mais non, je ne suis pas en train de t'insulter, au contraire. Je suis en train de reconnaître que c'est toi le roi et plus jamais nous les nations. Nous ne revendiquerons plus jamais le Har HaBayit. Le Har HaBayit Beyadechem. Lo Beyadenu. Et il lui dit, Vayomer Arvana el HaMeler, Hashem Elokecha Yirtzecha. Tu ne comprends pas que ce que je suis en train de te faire vivre, c'est la volonté d'Hachem. Hachem veut que ça passe par nous. Il veut que nous vous redonnions le mont du Temple, parce que c'est le signe éminent de la délivrance. Et qu'est-ce que tu veux de plus grand aveu que du fait que oui, je reconnais moi qui étais potentiellement le roi, que c'est toi le roi. C'est-à-dire en vérité, qui va proclamer la véritable royauté d'Hachem dans le monde? Les chrétiens disent que c'est eux. Les musulmans disent que c'est eux. Les juifs disent que c'est eux. Un jour viendra où tous ceux qui pensaient que c'était à eux de le proclamer, Arvana HaMeler, non, les Meler, c'est à toi de le proclamer. Et c'est pour ça que le monde du temple t'appartient. Kimitzion Tetzetora. Vayomer Arvana, alors là, Arvana HaMeler, le roi est rassuré. Il comprend que ce n'est pas un nouvel affront, lui qu'on a tellement eu dans sa vie, des révoltes. Tout de suite, il réadresse la parole à Arvana. Il lui dit, « Lo, mais sache une chose, je ne veux rien de gratuit, je veux acheter. »« Lo, qui kano ekne meitra. » Non, non, c'est très gentil, mais je veux rien de gratuit. Pourquoi ?« Bemechir, je veux payer, pourquoi ?»« Ve lo aale lachem elokai olot rinam. »« Car chez nous, dans le judaïsme, il n'y a pas de service divin gratuit. Le gratuit, ça coûte très cher. Rien n'est plus cher que le gratuit. D'accord. Il y avait une époque où, parce que j'ai nommé le rabbin une ou deux fois déjà, alors je continue. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude comme ça de distribuer des petites roverettes de Torah gratuitement. Etc. Le rabbi a toujours interdit de faire ça. Il a dit, la Torah ne se donne pas gratuitement. Vous me direz, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne fais pas ce que le rabbi dit. La Torah ne se donne pas gratuitement. Donne-le à prix coûtant. Mais il n'y a pas de gratuit. Pourquoi il n'y a pas de gratuit? Parce que s'il n'y a pas un effort, s'il n'y a pas un investissement, tu ne peux pas apprécier ce que tu reçois. La gratuité, c'est la mort. C'est le contraire de la bonté. On croit, non, ce qui est gratuit, c'est la bonté. Non. Parce que c'est ne pas comprendre la véritable nature humaine. Un homme qui n'a pas trimé pour avoir ne sait pas respecter ce qu'il reçoit. Il ne pourra pas apprécier. Comment tu vas donner, tu vas offrir un Picasso gratuit? Ça veut dire quoi? Comment les gens, après, vont mettre dans le grenier, ils ne vont pas regarder. Mais s'ils ont payé 2 millions, ils vont savoir que c'est important. Tu ne peux pas donner un toit gratuitement, c'est impossible. Et donc le David dit, non, attends, l'endroit du temple gratuit? Non. Et ça, c'est encore une fois l'autre extrême. Dans un premier temps, c'est les nations qui ont cet endroit-là. Et ils en font une grange. Ça veut dire quoi traduit dans le langage d'aujourd'hui? Ils jouent au foot là-haut. Ils jouent au foot. Que le monde sache ce que fait soi-disant l'islam de cet endroit-là. Ils jouent au foot. À cet endroit-là, on peut les filmer tous les jours. Ils font, oui, sur la esplanade, ils jouent au foot, ils jouent au chèche-bêche, ils font des méchouis à la hèche.
Mais ils prient aussi.
Ah, ils prient aussi. Heureusement qu'Olivier l'a dit. C'est vrai, ils prient aussi. Merci, Olivier, la rectification. Merci pour la bêtise que tu viens de dire. Merci. Mais vous imaginez un juif jouer au foot à l'endroit du temple? Je pense même, d'ailleurs, vous imaginez un chrétien jouait au foot dans la cour de la basilique Saint-Pierre. Vous imaginez? Mais ils sont complètement à la masse. Ils jouent au foot sur le mont du temple. Donc dans un premier temps, ils mettent là-bas un grenier. Après, quand ils prennent conscience que non, cet endroit nous appartient, non, prenez le gratos. Ça veut dire quoi, prenez le gratos? David l'a compris.
C'est comme Abraham.
Bien sûr, comme Avraham à Chevron, c'est la même chose. Non, prends-le. Genre, si déjà je te le donne, ça vaut rien pour moi. Hein.
100 000.
C'est rien, ouais. Ah, ça vaut rien pour toi. Non, viens, on va l'acheter quand même. On va l'acheter. Bon, si déjà tu veux payer, alors 400 shekels envers la socher. Ça veut dire qu'il a demandé 400 pièces d'or, d'accord, qui était une monnaie reconnue dans le monde entier, le dollar de l'époque. C'est-à-dire que il y avait à cette époque-là déjà une monnaie qu'on pouvait emporter partout, qui était une monnaie internationale. Il a demandé 400 pièces d'or de la monnaie internationale pour une grotte. Imaginez. Qu'est-ce que dit le Midrash? Dans un premier temps, il dit donne gratos. Ça veut dire quoi? Si déjà tu le veux, comme je veux garder ma fierté que moi, je ne vais pas donner quelque chose qui est cher à mes yeux à un juif. Donc tu sais, pour moi, ça ne vaut rien. Prends-le gratos. Avraham lui dit, arrête de te fiche de moi. Pour toi, ça vaut énormément cet endroit-là. Allez, combien qu'il vaut? Il vaut une fortune. Allez, 400. Pareil. Arvana, la même réaction. Dans un premier temps, il dit à David, tu sais, si j'avais gardé cet endroit est porteur de royauté. C'est moi le roi et c'est pas toi. Même si j'ose pas le dire, parce que bon, techniquement, c'est toi. Mais dans le fond, c'est moi. Et tu le sais, celui qui a cet endroit-là est le roi. Mais d'un autre côté, j'ai compris que ton Dieu veut que je te le donne. Tiens, allez, prends le gratos, ça vaut rien à mes yeux. David lui dit, allez, arrête, joue la comédie, ça vaut rien à tes yeux. Si déjà tu donnes, alors donne-le dignement. Donne-le en montrant que véritablement tu remets à Israël la perle, le diamant du monde, le cœur du monde. Allez, va jusqu'au bout de ta reconnaissance. Ne fais pas à l'écœurer. Regardez la suite. Donc, il accepte. Vaïken David et Agoren. Regardez comment il l'a acheté. Vetabakar Bekesef Shkalim Chamishim. 50 pièces d'or. Mais en vérité, vous savez, je vous avais déjà expliqué que tout ce texte-là, pratiquement toute la fin de Shmuel Bet, se trouve mot pour mot, pratiquement, dans Divrei Hayamim. les, comment on appelle les Hébraïmes en français ?
Chroniques.
Les chroniques. Avec de temps en temps un mot qui change et qui est extrêmement révélateur. C'est comme un petit peu le cinquième livre de la Torah qui répète des histoires des trois premiers, des quatre premiers. Quand il y a des fois un mot qui change, tiens, il faut se poser la question pourquoi. Et là, ici, à cet endroit-là, tout ce passage que je viens de vous lire se trouve mot pour mot dans les chroniques. Mais quand on arrive à la somme, c'est plus marqué 50, c'est marqué 600. 50, 600, c'est une sacrée différence. Alors les commentaires disent pourquoi ? Parce que d'abord, Arvana, il a dit, bon, donne-moi 50. Bon, 50, je ne sais pas ce que c'est 50 par rapport aujourd'hui, mais c'était une somme relativement importante, 50 pièces d'argent, 50 pièces d'or. Et quand David lui a apporté les 50, il a dit, non, tu n'as pas compris, 50 par tribu, ça fait 600. C'est pour ça qu'on a marqué 600. 600 pièces d'or pour une botte de foin. D'accord ? Voilà. Ça veut dire, tu veux que je paye, alors je vais te montrer ce que ça vaut à mes yeux. Ça veut dire, je veux que chaque tribu se saigne pour avoir cet endroit-là. Il y a une autre raison aussi qui est donnée, c'est le fait que ça permettait comme ça à chaque tribu d'avoir une part dans le futur temple, bien sûr. Mais par rapport à Arvona, il a demandé une somme incroyable, puisque Avraham n'a dû payer que 400 pièces d'or. Et déjà, nos maîtres à l'époque disent que c'était une fortune. Lui, il a demandé 600 pièces d'or. Pourquoi ? Pour une grange en bois dans laquelle se trouvait une meule de foin.
Il a demandé aux deux hommes ils étaient très riches à l'époque. Abraham était un homme très riche et David était aussi.
D'accord, mais ça prouve à quel point il a demandé une somme énorme qui reflétait ce qu'effectivement cet endroit valait à ses yeux maintenant qu'il vient de prendre conscience que c'est l'endroit du futur temple. Donc ça n'a pas de prix. Et donc, il l'a acheté. Vaïven, Sham, David, Misbeh, Lachem. Là-bas, il a construit un Misbeh, Lachem. C'est là où on termine. On peut dire Chazak, Chazak, Vinit, Chazak. On termine ensemble le deuxième livre de Shmuel. Vaïaral, Olot, Ushlamim, Vaïaeter, Hachem, Laaretz. Hachem a pardonné à la terre. Une fois qu'on a apporté sur cet autel des offrandes, Vate, Atsar, Amagefa, Mikol, Israël, Chazak, Chazak, Vinit, Chazak. Et l'épidémie fut arrêtée de dessus Israël. Voilà. Donc, ça se termine en beauté avec la découverte du temple, la découverte de cet endroit-là, et tout l'échange, tout le dialogue entre eux. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus, pas profondément, mais un peu plus actuellement, de montrer qu'effectivement, ce passage-là fait effectivement allusion à la délivrance finale. Et à tout le processus, comme j'ai d'ailleurs commencé à vous le montrer, tout le processus de la délivrance finale, où juste avant la délivrance finale, le mont du temple sera une grange remplie de foin, ça veut dire un zilzoul total.
C'est rempli de pierres aujourd'hui.
Comment ?
C'est rempli de pierres.
Oui, mais en tout cas, que c'est rempli de foin, ça veut dire qu'un comportement complètement, totalement inacceptable par rapport à la sainteté du lieu, jouer au foot, au chèche-bêche, machin, etc. Et donc, c'est la situation dans laquelle se trouve notre temple, notre endroit. Mais d'un autre côté, celui qui a cet endroit-là a de la malchoute. Ça veut dire quoi, traduit dans le langage aujourd'hui, avoir de la malchoute ? Celui qui est là-bas a, d'une certaine manière, un pouvoir sur l'ensemble de la terre. Cet endroit-là est fondamental. Parce que jamais, vous entendez ce que je dis, jamais, c'est enregistré, jamais, jamais, jamais et jamais Israël ne sera véritablement une nation reconstruite sur sa terre avec tout ce que cela implique tant que cet endroit ne sera pas entre nos mains. Le verset révèle ici, « Akol natan arvana hameler lameler » et les commentaires font remarquer « Hameler » avec le « He Aïdia » Le « he » qu'on met devant un mot en hébreu signifie que c'est lui l'essentiel. Quand tu dis par exemple, tu as plusieurs bouteilles sur la table, tu as de la bière, tu as du coca, tu as du jus de fruits, et tu as du vin et tu as du champagne. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux boire ? Attends, non, mère, tu peux dire « anirosé champagne ». Anirosé « ha champagne ». Ça met en évidence quoi ? Que c'est pas seulement cette bouteille, mais c'est la plus royale de toutes. C'est là, attends, on prend pas du coca quand t'as du champagne. Comprends ? Anirotse ha davarazé. Qu'est-ce que lui dis? Qu'est-ce que lui dit Arvana? Tu es peut-être Meler, mais toi tu es un Meler technique. Tant que le Harabait est entre mes mains, Ani ha Meler. Vayomer ha Meler, la Meler. Et donc, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que aussi incroyable que ce soit, le pouvoir politique en Israël appartient à celui qui est en possession de cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle, même si techniquement, et c'est ce que Arvana dit à David, on a l'impression que c'est nous qui sommes politiquement les propriétaires de cet endroit et de cette terre, mais dans le fond, nous n'avons aucune propriété politique sur cet endroit-là. Et la preuve,
on ne peut pas mettre le drapeau.
Interdiction d'y mettre un drapeau, interdiction de prier. Et d'une certaine manière, l'évolution politique en Israël montre chaque jour davantage que notre malchut, à nos yeux bien sûr, est en train de s'effriter chaque jour davantage, et jusque sur le plan même territorial, les acquis ne le sont pas vraiment, et à vision humaine, on ne saura pas ce qu'il y aura demain, et surtout, Jérusalem de demain, et de demain dans 24 heures, à vision humaine, ne sera plus du tout le Jérusalem d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, finalement, les décisions politiques à venir ne vont que concrétiser un état de fait qui, dans son essence, était déjà celui qui va se concrétiser. Parce que, de toute façon, la moitié de Jérusalem, depuis toujours, n'est plus et n'est pas entre nos mains. Un Israélien peut se promener du côté est de Jérusalem. Lequel d'entre nous oserait le faire?
Mais si, Hérode, mais si. Oui.
Lequel d'entre nous oserait le faire? Alors qu'eux peuvent venir dans nos canyonimes, dans nos magasins, à la terrasse de nos cafés, ils se promènent ici, des petites filles se promènent ici au milieu de nous sans aucun problème. Imaginez-vous une petite juive de 17 ans ou 18 ans qui se promènerait seule dans les rues là-bas. Imaginez-vous. Donc ce qui veut dire que de toute façon, c'est ce que Arvana est en train de révéler à David. Le vrai roi, c'est moi, parce que moi j'ai cet endroit-là. La Torah nous révèle ici que cet endroit-là est l'endroit du pouvoir sur la terre. Ah, alors maintenant on peut se poser la question, ben alors prenons-le. La Torah répond, non, on ne le prend pas de force. David aurait pu très bien tout de suite amener ses soldats, dégager Arvana et prendre l'endroit. C'est une halakha explicite, dont David ne s'est bien sûr jamais servi. Meler poretz geder la asot lo derer. Un roi décide de faire une route qui passe par un champ, demande l'avis à personne, d'accord? Il fait sa route. S'il veut, si c'est un bon roi, il dédommage. Si c'est un roi normal, il dédommage même pas. David n'a jamais fait ça, même en dédommageant. La preuve ici. Hachem vient de lui révéler que c'est le futur endroit du temple et il ne demande pas à Arvana de dégager. Non, il lui dit « je voudrais l'acheter ». Ce qui sous-entend que si Arvana avait dit non, eh ben, il serait revenu le lendemain. Pourquoi? Parce que David sait que l'acquisition réelle ne pourra se faire que dans le fond et pas dans la forme uniquement. Il faut que les nations comprennent que cet endroit est à nous. Et tant que ce ne sont pas elles qui nous diront « on s'en va », toute tentative de prendre cet endroit par la force échouera et ne donnera pas l'effet escompté. Parce qu'il s'agit ici de la délivrance finale et pas simplement d'un bras de force. Je parle de ce qu'on appelle le mont du temple. Je n'ai pas parlé de Chas v'Shalom, qu'à Dieu ne plaise, pour la Judée Samarie. Je parle du temple. Le temple ne peut pas être acquis par la force. Ce n'est pas en amenant un avion et bombarder, machin, comme certains avaient cette folie en tête. Ce n'est pas comme ça que ça marchera. Il n'y a rien de moins juif et de moins géoulatique que ça. On continue. Maintenant, regardez ce que dit le Radak. Donc on commence maintenant à décrypter que cet endroit-là est une grange dans laquelle il y a du foin, que Israël ne peut pas récupérer sa royauté tant que cet endroit est entre les mains d'Arvana, que Arvana est appelé le roi pour bien nous faire comprendre l'enjeu politique de cet endroit. Regardez ce que va nous rappeler le Radak, que vous connaissez bien, sûr, on l'avait déjà expliqué. Vezer Yebusi. Le Radak a écrit il y a plus de 300-400 ans. Et lui-même, ce qu'il va dire, c'est une tradition qui est déjà dans le Talmud. Ce qu'il va dire maintenant, c'est dans le Talmud, c'est-à-dire ça a plus de 2000 ans. Et il dit, c'est qui le Yéboussi? D'où il vient celui-là? Qu'est-ce qu'un non-juif fait comme ça en plein milieu de notre capitale? Sur une des montagnes centrales de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas celui-là? Veza Yéboussi, Loya Mesheva Umot. C'était pas un descendant des sept peuples cananéens. Vous savez que déjà depuis l'époque de Josué, toutes les tribus avaient laissé des enclaves au moment de la conquête, et n'avait pas chassé tous les Cananéens. Il n'y avait pas une tribu qui n'avait pas 5, 6, 4, 5 ans. Exactement comme aujourd'hui. Israël était un gruyère en vérité. Avec des enclaves cananéennes, bon, qui avaient évolué en 1000 ans. Le Radak dit, je ne vais pas tout lire, qu'ils étaient tous à cette époque-là monothéistes. Il n'y avait bien sûr pas d'idolâtres en Israël à l'époque du roi David. C'est ce qu'on appelle des Shiva Bnenoa. Ils accomplissaient les Shiva Mitzvot Bnenoa, sinon jamais Israël les aurait laissés. Mais le Yéboussi, lui, était l'exception qui confirmait la règle. C'était pas un descendant des Cananéens. Hein. Et là, mes Plishtim, c'était un Philistin. Philistin, palestinien, pas un Philistin. Quoi. C'était un Philistin. C'est incroyable. Ribono shel olam, mais qu'est-ce qui nous aurait dérangé si ça avait été un Cananéen? L'histoire est la même. Pourquoi il y a déjà 2000 ans, Ribono Shela, nos maîtres disent que cet endroit est entre les mains des Philistins?
Mais alors pourquoi on l'appelle Yéboussite?
Comment?
Pourquoi on l'appelle Yéboussite?
Parce que cet endroit-là avait appartenu à un peuple cananéen qui était les Jébuséens.
Ah, okay.
Et eux, une partie des Philistins de la bande de Gaza, avaient quitté la bande de Gaza, s'étaient installés en plein cœur de Jérusalem. Et, comme explique le Radak plus loin, comme ils étaient monothéistes, Allah Akbar, c'est du monothéisme, comme ils étaient monothéistes, dit le Radak il y a 400 ans, regardez-le avec vos yeux, les Juifs les avaient laissés, en se disant, de toute façon, bon, avant eux c'était des Cananéens, hein, on les a laissés, bon, maintenant c'est des Philistins, ils sont monothéistes, ils ne sont pas idolâtres, laissons-les aussi, puisque personne ne savait que ça serait le futur endroit du temple. Et comme il y avait déjà un état de fait depuis des siècles que des non-Juifs vivaient ici, quand les Jébuséens sont venus, enfin quand les Philistins sont venus, ils ont pris le nom de Jébuséens. Et donc, bon, vous vous changez de...
Et d'ailleurs, c'est intéressant voilà. Parce que les Palestiniens disent qu'ils sont les descendants de Jébuséens aujourd'hui.
Ils le disent?
Ouais, ça, je ne savais pas.
C'est incroyable. Et donc, voilà.
Et
des Philistins. Non, il a vécu 1000 ans avant, Meler Shalem. Et non, c'était, lui, c'était Shem. Donc, des Philistins qui, normalement, devraient être dans la bande de Gaza... se retrouver en plein cœur du pays. Mais je vous pose la question, c'est pas une prophétie ça, mais qu'est-ce qui pousse nos maîtres? C'est marqué nulle part dans la Torah écrite, nulle part. J'ai vérifié 1 million de fois, je sais pas possible, mais qu'est-ce qui leur prend? J'ai vérifié, j'ai tourné toutes les pages, j'ai tapé sur Google, Rabbi Google, etc. Je t'en supplie, qui sont les Jébuséens? C'est marqué nulle part que les Jébuséens étaient des Philistins. Pourquoi le Talmud le dit?
Dans l'épisode qu'on avait étudié il y a assez longtemps où il y avait l'histoire de la perche, là où.
Oui.
Quand la première bataille de David
oui.
Pour prendre sa citadelle, qui
était oui.
Sa capitale, il est fait. Quelle allusion? Il est fait à l'allusion? Ce sont des Jébuséens.
Des allusions, il y en a plein, mais c'est marqué nulle part explicitement. Non, évidemment, vous faites bien de rectifier. Jamais nos maîtres vont se permettre d'inventer quelque chose qui est de la pure, on peut dire, révélation divine. Nos maîtres ne refusent d'expliquer la Torah selon la méthode de la prophétie. Il y a forcément une allusion qui construit la pensée. Mais ça reste des allusions malgré tout, même dans le texte là-bas, c'est marqué nulle part, Philistin. C'est des allusions avec l'histoire du serment qu'Abraham avait fait. Il y a des allusions, mais même là-bas, il y a des commentaires qui expliquent différemment. C'est pas une évidence incontournable. Or, dans le Talmud, c'est marqué clairement que Arvana était un dirigeant philistin. D'accord. Maintenant, tout le monde sait d'où vient le mot Palestine. Ça a été donné par les Romains du nom de Philistine, de Philistin. Pour effacer le nom d'Israël, ils ont cherché un nouveau nom. Et comme il y avait toujours cette bande de Gaza traditionnelle qui s'appelait les Philistins, ils ont appelé ça les Philistines. Donc c'est absolument incroyable que ici le Talmud nous dit que le Har HaBayit était entre les mains des Philistins. Donc, des Palestiniens. Oui. Palestinien signifie Philistin. Oui. Seulement, Philistin, Philistin est en hébreu et Palestinien est en européen, en romain. C'est tout. C'est le même mot. On continue. Et là, mes plishtim, d'où il venait? Misera Avimeler. Un descendant du roi Avimeler. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il s'appelle Anni-Meller. Ha-Meller. Ça veut dire quoi, Avimeler? Avimeler. Ça veut dire quoi en hébreu, Avimeler? Mon père, le roi. Avimeler. Donc, je suis de sang royal. Jamais Arvana aurait dans ses rêves, aurait rêvé, osé dire à David, je suis roi. Pourquoi? Pourquoi c'est important de savoir qu'il est le descendant d'Avimeler? Mais parce que Avimeler est surtout, lui, est l'exemple vivant de celui qui trahit quoi? Un serment, un traité fait avec Israël. Quelles avaient été les clauses du traité fait entre Avimeler, Avraham et Yitzhak? Je reste chez moi, tu restes chez toi, tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Je reste dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'un descendant d'Avimeler fait en plein cœur d'Israël à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que veut dire en hébreu le mot flishtim? Ça vient de la racine les floches qui veut dire un envahisseur, un conquérant, un colon. Les flishtim, les Palestiniens, sont des colons, des envahisseurs. C'est la traduction du mot. Si les Romains avaient su qu'en les appelant des Palestiniens, ils les nommaient pour l'éternité des envahisseurs, ils auraient sans doute trouvé un autre mot. Signifie les floches. Effectivement, parce que Avimeler avait juré à deux reprises, et à Avraham et à Yitzhak, qu'il resterait sur la bande de Gaza. Dès qu'il a pu, il a envoyé des enfants à lui, et pas les moins, de la famille royale, comme pour revendiquer la possession sur toute la terre. Il les a envoyés à Jérusalem. Et donc, sa présence à Arvana n'était pas fortuite. Elle avait une intention politique. On continue. Kemo Shepirachnou, dans d'autres, etc. Et maintenant, Vayam, il pose une question. Je vais le lire ce que je vous ai dit, mais qu'est-ce que malgré tout un non-juif fait à Jérusalem? Vayam, mutar la nicham la shebet baaretz. Les juifs n'ont pas fauté en le laissant à cet endroit-là, sur le plan purement halachique. Kevan shekiblu alehem, shelo l'avod avod azara, parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient plus des idolâtres, ils croyaient en un Dieu unique. Une sorte de religion comme l'islam, si vous voulez, etc. Ils croyaient en un Dieu unique. Ce n'était pas du judaïsme, mais il n'y a pas que le judaïsme qui croit en un Dieu unique. Ils croyaient en un Dieu unique. Donc, toute ressemblance est vraiment fortuite. Maintenant, une autre explication que j'avais déjà donnée dans le fameux cours que Richard a rappelé. Pourquoi il a gardé le nom de Yebussi? Parce que lui savait qu'en étant à cet endroit-là, il trahissait la promesse faite par son aïeul. Il rendait caduques les accords d'Oslo. Il le savait. Et donc, il a changé son nom pour ne pas éveiller l'attention. Vous comprenez? Ça veut dire, mais non, mais c'est pas nous qui tirons, c'est les salafistes. Non, et, je sais pas moi, c'est pas nous. C'est... Non, non, nous, on tire pas. Non, non, nous, au contraire, on tire pas. Pourquoi le monstre a 1000 têtes? Parce que quand tu en accuses une, il dit, merde, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous comprenez? Quand du Liban, on nous tire dessus et qu'on veut riposter, on peut pas riposter. C'est pas les Libanais qui nous tirent dessus, c'est le Hezbollah. Et c'est pas le Liban, hein. Et puis quand le Hezbollah se rend compte qu'il commence maintenant à être un petit peu trop mis en évidence, alors il crée des sous-mouvements. Et tu sais plus qui attaquer, il change de nom constamment. Il s'appelle frère musulman, il s'appelle Hamas, il s'appelle Achaf, il s'appelle Falassi, il s'appelle fou de Dieu, il s'appelle El-Qaïda, et on sait plus comment il s'appelle. Voilà. L'origine. Le Philistin, il change de nom, il s'appelle Yebussi. Ah non, moi j'ai pas trahi les accords de soi, non, je suis pas Philistin, moi. Pas de problème, moi je suis Yebussi, moi.
Normal.
Comment? Yebussi. On continue encore un petit peu, et maintenant, regardez ce que va dire le Malbim, on va terminer maintenant en beauté, il reste peu de temps parce qu'il y a le cours des dames, on va terminer en beauté. Et là, on retient notre souffle. Je vous avais dit, Comment se fait-il que quand le malheur est arrivé à Jérusalem pour le détruire, ce qui signifie, maintenant je vous le dis, que cette volonté du malheur de détruire Jérusalem est une allusion comme quoi le dernier grand combat des nations contre Israël se fera à Jérusalem, la guerre de Gog et Magog, comme on la voit tous les jours davantage. Parce que comme on le sait, ça a été expliqué des dizaines de fois avant moi, la guerre de Gog et Magog n'est pas seulement sur le plan militaire, elle est aussi et surtout sur le plan politique. On est en pleine guerre de Gog et Magog. En plein. Puisque c'est quoi? C'est la revendication des nations de nous faire perdre Jérusalem. On commence par la moitié et puis après l'autre côté. Pourquoi? J'ai expliqué tout le film dans leur tête. On coupe Jérusalem en deux. Au lendemain de la signature, les premiers obus commencent à battre sur Mehacharim, etc. Évidemment, ce n'est pas ceux avec qui on a signé les accords. C'est des terroristes qu'on n'arrive pas à contrôler, des fous furieux chez nous. On connaît tout le film déjà préparé à l'avance. Les Occidentaux le savent, bien sûr, puisqu'ils sont en train d'entraîner dans des camps spéciaux et cacher les futurs terroristes de Jérusalem-Est. Partent-ils en France aussi, etc. Mais peu importe. En tous les cas, quoi qu'il en soit, après, qu'est-ce qu'il y a? On va riposter. Et quand on va riposter, ils vont riposter. Et il va y avoir bien sûr des erreurs de notre côté aussi. Il y a des bombes qui vont se perdre. Qu'est-ce que va faire l'ONU? Il faut qu'on intervienne. C'est pas possible, ils n'arrivent pas à s'entendre. Bon, vous l'avez dit, mais on le savait, mais... Chut, arrête, il faut que le film continue. Bon, ville internationale. L'OTAN, l'ONU est là, etc. Elle n'est plus à personne. Elle est à qui? Au Vatican. Non, j'ai rien dit. Elle est... Voilà. Ville internationale. Et ils ont gagné. C'est le film prévu. 3-4 ans, Jérusalem est nommée ville internationale qui n'appartient plus aux Juifs. C'est le plan, 3-4 ans, ils se sont donnés pour y arriver.
Ça commence déjà.
Mais on est en plein dedans. Je vous parle des futures étapes.
Sur les
futures étapes. Ça a commencé, bien sûr, puisque au consulat français, si tu as un enfant que tu veux qu'il soit français, c'est marqué qu'il est né à Jérusalem, mais Jérusalem, c'est pas Israël, bien sûr. J'ai pas compris votre réflexion. Ça a super commencé, puisque mes enfants nés à Jérusalem et français parce que je suis français... sont nés à Jérusalem, ils ne sont pas nés en France, comme les vôtres. D'accord ? Donc ça a commencé.
En 47, Israël avait accepté le principe que Jérusalem soit ville internationale.
Comment ?
Jérusalem, Israël avait accepté que...
Pendant 10 ans, il devait y avoir une...
En 47, bah oui.
Est-ce que vous allez le faire taire un jour ?
C'est la vérité.
Mais, les plus grandes honneries sont toujours des vérités. Je vais t'expliquer pourquoi tu as dit une honnerie terrible. Parce que quand on sort d'Auschwitz, qu'on a la peau sur les os... Et qu'on te donne un os à sucer, tu le prends, tu t'en fous, tu calcules pas. Tu viens de pas bouffer pendant 5 ans. Mais tais-toi.
Ne voulait pas d'une souveraineté.
Olivier, je t'en supplie. Olivier. Bon Hachem, tu manges bien et ça se voit. T'es pas passé par Auschwitz. T'as pas perdu ton père, ta mère, tes soeurs, tes enfants, ta femme. T'as rien perdu. Et tu fais de la philo 50 ans après.
Un peuple qui sort
d'Auschwitz. Olivier, je termine. Un peuple qui sort d'Auschwitz et de 2 siècles de pogroms, tu lui donnes n'importe quoi, il le prend. Et Ben Gourion le savait. Ben Gourion savait que ce peuple qui sort d'Auschwitz ne pourra pas se battre contre le monde entier. Tes interprétations sont un scandale. Évidemment que ce que tu dis est juste, mais pourquoi c'est une honnerie? Parce que tu fais de l'interprétation antisémite et stupide.
Non, c'est
mais arrête-toi, Olivier.
Olivier,
Ben Gourion savait ce que nous savons aujourd'hui. C'est 100 fois plus dur de garder Jérusalem que de se battre pour tout le pays réuni. Et Ben Gourion le savait, et il avait dans les mains des gens qui sortaient d'Auschwitz. Il voulait avancer étape par étape. Il savait qu'il ne pouvait pas demander, lui, dans ce qu'il pensait, parce que c'était un fin politicien, il pensait que ce peuple qui crève encore de faim, qui pleure encore ses femmes et ses enfants, ne pourra pas se battre contre le monde entier pour Jérusalem. Alors il s'est dit quoi? On a vécu pendant 2000 ans sans Jérusalem, alors on vivra encore 50 ans sans Jérusalem. Mais son plan était bien sûr tout Israël. Seulement lui, c'était un vrai politicien, à défendre de nous qui sommes Stam des parleurs. Et il savait analyser la situation sur le terrain. Mais évidemment que son intention était après donner Jérusalem à Israël, seulement il voulait gagner du temps. On était en 48 et en 45 seulement, on venait de sortir d'Auschwitz. Il faut comprendre dans quelle situation se trouvait ce peuple. N'importe quel peuple aurait pleuré sa femme et ses enfants pendant des millénaires. Nous, il nous a fallu 3 ans pour les pleurer, on les avait déjà oubliés. Il faut comprendre, tu ne peux pas prendre un fait qui est vrai et l'interpréter n'importe comment. Lui qui était un véritable amant, amoureux de son peuple, Ben Gourion, qui voyait la délivrance d'Israël avec ses yeux de politicien laïque, c'est vrai, mais qui voyait la délivrance d'Israël, comme le dit le Talmud, Ayelet HaShachar, en différentes étapes, lui pensait que l'étape que lui devait réaliser, c'est donner un petit morceau, un petit moins que rien à Israël, et ceux qui viendront après lui donneront un peu plus, parce que peut-être que les nations comprendront que ce petit rien n'est pas viable. Mais il n'a pas parlé pour l'avenir, il a parlé pour son présent. Et c'est pour ça que Israël, c'est comme si tu me disais, puisque Israël a accepté le partage de l'ONU, parlons pas sur la Jérusalem, c'est-à-dire que les Juifs vont accepter que pas tout Israël est à nous. Mais si quelqu'un t'entend dire une chose pareille, mais il va devenir fou, comme je deviens fou en direct. Qu'est-ce que ça a à voir une décision ponctuelle qui est pragmatique et qui tient compte de la réalité par rapport à la foi, l'espérance et la sagesse véritable d'Israël? C'est évident que ça n'a rien à voir. Comment ?
Ça n'a pas de valeur juridique, ça a été refusé par les Arabes.
Et de toute façon, ils l'ont refusé, donc ça n'a pas de valeur.
En plus, il y avait 10 ans, après, il y aurait eu un sondage de population, de la population de Jérusalem, pour décider du statut final. Donc on savait qu'il y, a déjà une, il y avait déjà, il y a toujours, depuis 150 ans, une majorité juive
à Jérusalem. À Jérusalem, évidemment.
Il y avait 10 ans prévus. Après,
mais il le savait, Ben Gourion, c'était un fin politicien, et surtout un homme extrêmement sage. Et il savait que l'histoire se construit d'étape en étape. Et il savait aussi un principe très important dans la sagesse politique, c'est que parfois, le chemin le plus court qui mène devant soi, c'est en marchant en arrière. En français, ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Il le savait. Donc, il faut faire attention comment on interprète des décisions politiques de l'époque. Quoi qu'il en soit, maintenant, on voit, encore une fois, que, on a bientôt terminé, que Jérusalem est donc la dernière étape. Le Malhar s'arrête à Jérusalem, mais il y a aussi une allusion aussi très importante, mes amis. Nous, on est en train de vivre le dernier combat du Malhar dans Jérusalem, les Ashrit, pour la détruire. Mais en vérité, le texte nous dit que le vrai dernier combat sera pas sur le Jérusalem politique, mais c'est sur le Jérusalem spirituel, qui est le Har Abayit. Parce que tant... Je vous dis quelque chose, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer. Je pèse dans mes sources entre nous. Supposons que tout d'un coup, il y a un miracle et que nos voisins décident que leur capitale sera Ramallah et qu'ils nous donnent tout Jérusalem sauf le mont du Temple. C'est comme s'ils ne nous avaient rien donné. Rien. Pourquoi ? Parce que ça ne tiendra pas. C'est impossible. Tant qu'ils ne nous disent pas « Prenez le mont du Temple », c'est la preuve absolue que ce qu'ils veulent, c'est nous voir à la mer et au plus vite. Et comme le jour où ils nous donneront le mont du Temple, et même à vision infinie, n'arrivera jamais, il faut donc le miracle de la délivrance. Parce que ce n'est pas du domaine de l'homme de faire une chose pareille. Aucun homme juif, y compris le Mashiach, n'arrivera à redonner le mont du Temple à Jérusalem, le mont du Temple à Israël, je rajoute, par la force. Il faut que ça vienne des nations. Mais pour, comme on l'a vu ici, mais pour que ça vienne des nations, il faut donc un miracle incroyable. Et ce miracle, c'est le grand miracle de la délivrance qui n'est pas du tout entre nos mains. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'agir dans tous les domaines qui sont entre nos mains, mais ce domaine-là, ça nous dépasse complètement. Regardez maintenant ce que va dire le Malbim. Là, je vais vous apprendre quelque chose absolument bouleversant. Vous allez voir. Le Malbim pose la question. Pourquoi on voit tout d'un coup que le Malhar s'arrête à Jérusalem, il dit, le Hachem lui dit, arrête de détruire. Arrête. Chazal Amrou, nos maîtres disent dans le Talmud, il y a 2000 ans, sur ce verset-là, Efroche Yitzhak Ra'a, quand le Malhar est rentré, il a vu à cet endroit-là, à l'endroit où serait construit le Mizbéhar, il a vu la cendre de Yitzhak.
Mais Kedat Yitzhak était là-bas.
Bien sûr.
Mais un Malhar Amar Lo Erev.
Oui, mais il n'y a jamais eu de cendre de Yitzhak. Il a vu la cendre de Yitzhak. Vechen Amrou, ils ont donné une autre réponse. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Hatsi Shekel, la moitié du Shekel que chaque juif devait donner dans la caisse du temple chaque nouvelle année au mois de Hadar, notre mois à nous, qu'on va d'ailleurs tous donner à Purim, le jour de Purim, la semaine prochaine. Je respecte techniquement les deux choses et après je vais vous montrer que c'est de la folie pure. Il a vu deux choses qui l'ont fait s'arrêter. Il a vu à cet endroit-là, comme dit Nathan, c'est vrai, c'est à cet endroit-là qu'avait eu lieu la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak. Il a vu la cendre, oui, à l'endroit de l'autel. du futur autel. Il a vu donc la cendre de Yitzhak à cet endroit-là. Et donc, par le mérite de ce sacrifice, il s'est arrêté. De même, il a vu le Khatsi Shekel, le demi-shekel que Israël apportait, apportera pendant 900 ans, tous les mois de Hadar, notre mois, dans les caisses du temple, avec lesquelles on achetait toutes les offrandes apportées durant toute l'année. Deux questions énormes. Yitzhak n'a jamais été transformé en cendre. Deuxième question. Quel est le rapport avec le moitié du shekel? Pourquoi cette mitzvah, pourquoi pas une autre? Et pourquoi pas la mitzvah des tefilines? Et pourquoi pas la mitzvah du loulav, etc. Je reviens sur la première question. Mes amis, je pense plusieurs centaines de textes de l'époque talmudique et précédente encore, déjà à l'époque de la Mishnah, donc je parle de 2500 ans en arrière, dans les Midrashim, dans le Zohar, et dans tous les textes jusqu'à notre époque contemporaine, mais depuis plus de 2500 ans, on trouve ce genre d'enseignement qu'à chaque fois qu'il y a un décret grave sur Israël, à ce moment-là, le Malhar, la force envoyée, ou Hachem lui-même, regarde les cendres de Yitzhak, et à cause des cendres de Yitzhak, il annule le décret. Ici, on nous dit que l'ange était prêt à détruire Jérusalem, la guerre de Gog et Magog à l'avantage des nations. On voit les cendres et il s'arrête. Je pose une question évidente. Comment se fait-il que depuis 2500 ans, au lieu de dire « on a vu, on s'est rappelé le mérite du sacrifice », on parle des cendres d'eux. Il n'y a jamais eu de cendres. Il n'y a jamais eu de cendres. Et si, comme certains veulent dire, mais eux-mêmes disent en le disant qu'ils disent n'importe quoi, et non, ça veut dire que c'est les cendres de l'animal qui a été apporté à la place d'eux, le fameux Ayal. On aurait dû dire dans ce cas-là, Ephro, Shel Heilo, Shel Yitzhak. C'est pas les cendres de Yitzhak, Ephro, Shel Yitzhak.
Non, c'était sa récompense.
Mes amis, ça fait 2500 ans que nos maîtres font allusion aux cendres de notre peuple. Ça fait, comme il y a des dizaines d'allusions à la Shoah dans nos textes, le fameux Dor HaShemad, dont j'en ai parlé d'Afka hier dans un autre cours, le fameux cours de Shekin, où nos maîtres font allusion au Dor HaShemad, certains textes Dor HaShoah, mais Dor HaShemad, on le trouve des dizaines de textes qui parlent du fameux Dor HaShemad, juste avant la délivrance finale. Les cendres de Yitzhak, c'est une allusion prophétique au fait qu'un jour, notre peuple, nos enfants, puisque Yitzhak, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le symbole de l'enfant. Les cendres de nos enfants. Et ce mérite, les cendres de nos enfants, c'est ce qui fera qu'au moment où les nations seront prêtes de faire tomber Jérusalem, et que le peuple juif n'aura peut-être plus suffisamment de mérite à cette époque-là pour mériter d'éviter la catastrophe, Hachem regardera les cendres de nos enfants, de notre petit Yitzhak. Et il dira à l'ange, Dai, ça suffit. Dai. Pour quelle raison, depuis des millénaires, quand nos maîtres parlent de la catastrophe évitée, ils parlent des cendres de Yitzhak? C'est sûr et certain qu'ils font allusion à cela. Yitzhak n'a jamais été transformé en cendre. Le bouc a été pris à sa place. Il s'appelle bouc, il ne s'appelle pas Yitzhak. Il n'y a aucune autre traduction possible de Ephro Shel Yitzhak que celle donnée d'après le sod des choses, les cendres de Yitzhak, Yitzhak étant le symbole de l'enfance d'Israël, massacré et transformé en cendres.
Mais il n'a jamais quitté Israël, il était toujours Israël.
Et pourquoi, bien sûr, on fait allusion à Yitzhak? Parce que comme je vous ai déjà dit et redit, et comme l'ont compris même les goïms, Hitler n'était pas antisémite. Il était antisioniste. Il a voulu empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et c'est comme par hasard un Philistin, un Palestinien de Jérusalem qui est venu lui souffler dans l'oreille la solution finale. Transforme les enfants en cendres. Et donc, c'est pour ça que c'est Yitzhak qui est le symbole du juif Eretz israélien, en ce sens qu'il n'a jamais quitté la terre d'Israël, il est le symbole de la Eretz Israeliut. Ça veut dire l'identité israélienne, juive israélienne, attachée à sa terre. Maintenant, c'est quoi l'autre chose qu'il a vu, le malar? Le Hatzi Shekel. Vous connaissez tous la question évidente que nos maîtres demandent. Et pourquoi on n'apportait pas un shekel? Pourquoi un moitié de shekel? Pourquoi? Tiens, je donne un demi euro. Mais donne-moi un euro. De toute façon, c'est un ordre divin. Et si Hachem avait demandé un euro, surtout que qu'est-ce que c'est un shekel? Un shekel, c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, aujourd'hui peut-être de 50 shekels. Quoi, un juif va hésiter à donner 50 shekels au moins une fois par an pour le service du temple? Pourquoi 25 shekels? Parce que vous connaissez tous la réponse de nos maîtres. Pour apprendre à chaque juif que tu n'es que la moitié d'un autre. Et sans l'autre, tu n'es qu'une moitié. Et pour apprendre à notre peuple que dans notre peuple, il y a deux parties. Il y a le Hatzi Shekel terrestre, il y a le Hatzi Shekel spirituel, tout le cours de la semaine dernière. Il y a ceux qui, parce qu'ils ont été créés pour et n'ont aucun de mérite de l'être, ceux qui ont été créés pour étudier la Torah et qui n'ont aucun mérite de l'étudier parce qu'ils ont été créés pour ça. Comme le dit le Tania, c'est pas de moi. Et ceux qui ont été créés pour être des héros de guerre et qui n'ont aucun mérite de l'être, j'exagère en le disant dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'ils ont été créés pour, évidemment. Pas tout le monde peut devenir un commandant de Seyeret Matkal, même s'il s'entraîne du matin au soir. Il y a des prédispositions pour l'être, c'est évident. Comme pas tout le monde peut devenir un Rav Obadiah Yosef, c'est évident. On est prédisposé à l'être. Donc si tu deviens Mefaket Seyeret Matkal, ou tu deviens Rav Obadiah Yosef, et que les deux vous êtes les sauveurs de notre peuple, d'accord? Toi tu n'as aucun mérite, toi tu n'as aucun mérite. Parce que toi tu es un Marti Shekel, toi tu es un Marti Shekel. Chacun a été créé pour être ce qu'il est devenu. Votre mérite, c'est d'avoir utilisé les forces que Hachem vous a données pour faire ce qu'il attendait de vous. Toi, Mefaket Seyeret Matkal, avec le courage, la puissance que tu aurais pu devenir champion olympique et te remplir les poches de médailles et tu as risqué ta vie pour ton peuple. Et toi, Rav Obadiah Yosef, tu aurais pu devenir un grand philosophe, tu aurais pu devenir un grand académicien avec des prix Nobel et des salaires de folie. Et tu es devenu ce que tu es devenu. Ça, c'est votre mérite, mais pas le potentiel que vous avez reçu. Parce qu'on ne devient pas par l'effort un Baba Salé, et on ne devient pas par l'effort un héros d'Israël. C'est impossible. Tu es prédisposé. Le problème, c'est que chacun doit comprendre dans sa grandeur qu'il n'est que la moitié de l'autre. Moi, l'homme de Torah, sans toi, l'homme du combat, je ne vaux rien. Toi, l'homme du combat, sans moi, l'homme de Torah, tu ne vaux rien. Chacun n'apporte qu'une moitié. Parce que Hachem dit, à mes yeux, un shekel, ça se fait avec deux juifs. Et c'est ça le mérite qui nous sauvera de la guerre de Gog et Magog. Mes amis, c'est la raison pour laquelle ce cours est d'une actualité absolument incroyable, comme je l'ai prévenu. C'est la raison pour laquelle c'est le message final du roi David. C'est la raison pour laquelle ce sont ces deux choses qui vont nous sauver de la guerre de Gog et Magog. Malheureusement, la Shoah, c'est un mérite, si j'ose dire, dans le ciel qui reste éternel et qui nous sauvera de toute catastrophe. Comme disait aussi le rabbi, l'opa'amaim takum tsara. Plus jamais il y aura une catastrophe que ça dans notre histoire. C'est impossible. Et l'unité entre nous. Pour rester sur l'unité entre nous, c'est pour ça que tous les débats qu'il y a en ce moment sur les religieux alarmés, etc., etc., sont véritablement un signe de la providence incroyable. Pourquoi précisément au même moment où toutes les nations se sont mis enfin d'accord pour n'avoir plus qu'un seul problème sur Terre, c'est la destruction d'Israël, parce que appelons un chat, d'accord? Comment se fait-il qu'au même moment, le grand problème qui agite notre nation, c'est la paix entre nous, parce que l'un dépend de l'autre. Je vais le dire de la manière suivante. C'est parce que les non-religieux continuent à croire que finalement on pourrait très bien se passer de la Torah. Et c'est parce que les religieux, certains, pardon, continuent à dire que les autres n'ont qu'à faire, eux, leur travail de soldat et nous, on fait notre travail d'étude. C'est parce que les uns et les autres ne se supportent pas, s'excluent et se méprisent que toutes les nations, elles, se mettent d'accord pour nous détruire. Quand Israël, quand chaque demi-shekel se croit un shekel entier, alors qu'est-ce que nous disent les nations ? Vous, vous êtes séparés, mais nous, on va se réunir contre vous. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule et unique solution. D'accord ? Les non-religieux à la yeshiva et les religieux à l'armée. C'est la seule et unique solution. L'unité totale entre peuples, à l'exception bien sûr, comme tout le monde est d'accord, de ceux qui effectivement, comme dans n'importe quelle nation, vous imaginez la France fermer le CNRS, des gens qui sont payés du matin au soir et du soir au matin pour penser et produire, etc. Des découvertes au niveau de la pensée. Vous imaginez la France fermer le CNRS en disant je ne sais pas, non, on a besoin de vous pour faire des routes ou pour l'armée ou pour vous envoyer au Mali. Vous imaginez ? Pourquoi la France ne le fera jamais ? Parce que tout pays a besoin d'un groupe de penseurs.
Un groupe.
Hein, mais on, je ne parle que de ça. J'ai pas besoin de le répéter.
Pourquoi d'un groupe ? Pas 600 000.
Nathan, on ne parle que de ça. C'est grossier, c'est ridicule, on ne parle que de ça. Et donc, tout pays a besoin d'un groupe. Chez nous aussi, on a besoin d'un groupe. Je viens de dire qu'il fallait aller à l'armée. Donc pourquoi grossir bêtement les choses ? Parce que je viens de le dire. Je viens. J'ai déjà tellement d'ennemis, Nathan. Pas mes enfants, pas mes talmidim. J'ai tellement de monde qu'il faudrait ne pas comprendre ce que je dis. Alors pas ceux qui sont en face de moi. Parce que sinon un jour mon cœur il va lâcher. Je ne tiendrai plus. Je ne peux plus supporter cette folie contre moi. Je suis tellement clair. Tellement clair dans mes propos. Je dis, toute nation a besoin d'une élite qui ne peut faire que ce pour quoi elle a été créée. Et sur ce point-là, personne ne dit le contraire, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais là où est le problème, c'est quand il y a cette séparation totale, quand les uns refusent totalement d'être aussi avec les autres. Et donc, il y a énormément de gens qui ne sont pas dans les yeshivot, qui devraient être dans les yeshivot aussi, qu'on devrait aider à comprendre la Torah, à l'aimer. Donc, leur permet d'étudier. De la même manière, il y a énormément de gens qui sont dans la Torah, qu'on devrait aider, encourager à rentrer aussi dans ce monde, parce qu'eux ne seront jamais des Rav Obadiah Yosef, ne seront jamais des Baba Salé et ne seront jamais des Rabbi de Lubavitch. Et donc, ils ont besoin, eux aussi, d'une activité terrestre. C'est là où il y a un manque d'unité. Quand les choses sont tranchées, et la moitié d'un côté qui se suffit à elle-même, et la moitié de l'autre qui se suffit à elle-même. Voilà, ici, mes amis, en deux mots, le secret de la délivrance finale.
Justement, la division d'Israël...
La Shoah... Ça, c'est un mérite qui, malheureusement, on aurait préféré s'en passer. Et c'est un mérite sur lequel nous n'avons pas à travailler parce que, malheureusement, il est là, les cendres de Yitzhak. Mais nous n'avons qu'un seul et unique domaine dans lequel nous devons travailler. L'unité du peuple juif.
Et c'est le domaine. C'est l'essentiel.
Oui. Non, mais l'unité du peuple juif qui réunit les deux côtés, justement, c'est aussi une représentation, un symbole de des divisions du monde aussi. S'il y a une unité d'Israël, alors il peut y avoir une unité de monde qui reconnaît justement la place d'Israël comme porteur de base divin aux nations.
Le seul moment où l'humanité est unie, c'est contre nous lorsque nous sommes divisés. Et quand nous serons unis, l'humanité le sera aussi, et cette fois-ci plus contre nous, mais avec nous. Et donc le problème il est chez nous, et encore une fois c'est pour ça que le problème qu'il y a en ce moment doit être pris vraiment avec le plus grand sérieux, parce que je pense très sincèrement, et je voudrais terminer comme ça ce cours sur le roi David, je pense très sincèrement que Hachem nous a envoyé un cadeau du style Magdim Refoua la Maka. Il nous a envoyé un cadeau de voir comment nous arrivons à résoudre ce problème entre nous. L'armée, pas l'armée, la yeshiva, pas la yeshiva. Si ce problème, nous continuons à le résoudre, comme malheureusement nous sommes habitués à résoudre nos problèmes, dans la haine, le refus de l'autre, l'intolérance, etc., etc., Alors Hachem nous aura donné la réfoua avant la Maka, on n'aura pas voulu l'utiliser. Qu'à Dieu ne plaise, qu'est-ce que va être la Maka? Et si on sait être à la hauteur, et on sait comprendre qu'en vérité les uns et les autres ont raison, simplement que quoi qu'il faut arriver à unir toutes les bonnes intentions et trouver le point d'équilibre entre les deux, le jour où on aura trouvé ça, alors Hachem nous dira, vous avez réussi à prendre le médicament avant que ne vienne la maladie, maintenant vous avez une sorte de, qu'on appelle ça, d'immunité, et on ne pourra plus rien vous faire, oui.
Une question, est-ce que les cendres de nos enfants morts à la Shoah sont-elles mélangées aux cendres des enfants morts dans l'épidémie? Autrement dit, y a-t-il un lien entre l'épidémie et la Shoah?
C'est pas pour rien que le chiffre du nombre de morts, c'est 70 000. 70, ça vous fait penser à quoi? Les 70 nations.
70,
ça veut dire que c'est les morts tués par les 70 nations. Ça veut dire que c'est les morts d'Israël qui sont morts sous le coup des 70 nations. Donc cette épidémie était bien sûr, d'une certaine manière, une allusion à toutes les attaques des nations contre nous pendant tout le temps du Galout, et c'est pour ça que c'était 70 000 morts.
La révision du chiffre de 6 000, comment? Il y a de 7 plus.
Oui, on a déjà depuis longtemps dépassé les 6 millions, bien sûr.
70 phases de la Torah.
Oui. Oui, c'est les 70 années de règne de David, comme a dit Nathan, c'est les 70 phases de la Torah, mais pourquoi toujours aussi 70? Parce que c'est le symbole de l'humanité. Et nos 70 000 morts à cette époque-là font allusion à tous les massacres de juifs par les 70 nations pendant toute l'histoire. Donc ce texte-là est en plein dans l'actualité. Oui. En plein dans l'actualité, oui.
Est-ce que le fameux « Hé » à Meller, le fameux « Hé » que vous avez dit pendant le cours, on fait allusion au dernier « Hé » du nom d'Hachem qui est restitué par...
Oui, c'est la malchoute, c'est ce que voilà, j'ai dit, bien sûr. Voilà, c'est, la malchoute est entre les mains, ça je l'ai dit dans le cours, oui. La royauté est entre les mains de celui qui possède le Har HaBayit. Ça, c'est clair.
Là, vous pouvez m'expliquer. Oui. On était, avant-hier, dans un tioul, Maskeret Batia. On a entendu sur ce génie-là, Rav Moha Liber. Chez lui, c'était Avoda, Torah et Avoda.
Oui.
Il était pour Madaïm. Et vous voyez maintenant, chez les Haridim, c'est même pas la peine d'apprendre ni les mathématiques, ni l'anglais, ni les biologies, ni rien. C'est ça le problème qu'il y a en Israël. Moi, j'ai dit que les Haridim doivent aller à Machon Weizmann pour 3 ans, à la place de ma fille, et elles préfèrent aller à les Moudé Gmara.
Moi, je dis que vous avez entièrement raison et en même temps entièrement tort. Le problème n'est pas là. Le problème est tout un problème dans la nuance. Le problème n'est pas... Votre discours est un discours idéologique. Moi, j'ai un discours pragmatique. J'explique pour la dernière fois. L'idée fondamentale qui dit que notre peuple ne peut pas se passer de juifs dont la mission est d'étudier exclusivement la Torah du matin au soir, cette idée est une idée qui est fondamentalement juste, et je défie le moindre juif sincère et honnête dans ce pays de se lever pour dire le contraire. Réga, j'ai pas fini. L'idée est juste. La marloquette entre nous, pas entre vous et moi, c'est son application. Torah Shibirtaf, Torah Shebealpé. Est-ce que tout celui qui se dit « je voudrais appartenir à ce groupe-là », est-ce qu'il est en droit de le dire? C'est ça le vrai problème. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure quand je me suis mis en colère, parce que c'est pas la peine de dire des choses que tout le monde sait, que évidemment qu'il y a un abus inacceptable, que finalement tout le monde veut porter, ou plutôt trop veulent porter un drapeau qui ne devrait être porté que par 1/10 de ceux qui le portent. Mais la haine entre nous, je parle entre les factions d'Israël, vient du fait qu'on fait d'un problème technique, mécanique, un problème idéologique. Et ça, c'est de là que viennent les querelles graves. Parce que c'est toujours l'idéologie qui pourrit les relations humaines. À partir du moment où le peuple juif acceptera, c'est-à-dire que le monde de la Torah acceptera, le jour où il acceptera idéologiquement, et il est pour l'instant loin de l'accepter, que un soldat d'Israël a autant de mérite spirituel qu'un Rosh Yeshiva, chose qu'il est très loin d'accepter sur le plan idéologique, le jour où ça va accepter ça, et vice-versa, le jour où un soldat acceptera que celui qui est véritablement fait pour étudier, lorsqu'il étudie, est autant un soldat que celui qui tient les armes, lorsque ces deux-là accepteront ces deux choses-là, que pour l'instant la grande majorité n'accepte ni d'un côté que de l'autre, on a fini la haine entre nous. Après, c'est plus que du mécanique. Bon, toi, dis-moi, tu es vraiment fait pour étudier toute la journée, dis-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute ta vie, là, maintenant, tu as 22 ans, 22 ans. C'est-à-dire que tu vas vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Ce qui veut dire que pendant, ça veut dire que pendant 108 ans, d'accord, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu ne bouges plus de la yeshiva. Parce que ça, c'est comme ça que Rav Obadiah Yosef a vécu. C'est comme ça que Baba Saleh a vécu. C'est comme ça que Rav Chaim Kanievski vit. C'est comme ça que le Rav Mish a vécu. C'est comme ça que le Gaon de Vilna a vécu. C'est ça, Torato Menuto. Tu ne peux pas bouger de l'étude. Surtout, et là je suis contre Nathan, surtout ne va pas à Weizmann. Surtout n'y va pas, j'ai besoin de toi dans la Gemara. Surtout n'y va pas. Mais, si tu n'es pas à ce niveau-là, et c'est la majorité, alors dans ce cas-là, le discours est différent. C'est ça le problème idéologique entre nous. Trop de juifs n'ont pas compris chez nous que
référence historique et grammaticale.
Mais pas comme tu le crois. Il a pas été à la Sorbonne comme toi. Mais encore une fois, il est dit aussi. Mais Olivier, ce que tu dis est juste et honte en même temps. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, comme le Chazon Ish il y a 50 ans, a tout appris de la Mara elle-même. Mais précise-le, c'est ça l'essentiel. Il n'a pas été à la Sorbonne.
Pourquoi,
il n'a pas été à Weizmann.
C'est
autre chose. C'est autre chose.
Pourquoi autre chose?
On en parle
à la BAM.
Non, c'est autre chose. J'expliquerai ça aussi. Le Tania explique pourquoi. Le Tania explique les rabbanim qui sont destinés à parler au monde entier. D'accord, ont le devoir de s'informer de ce qui se passe dans le monde. Le rabbi ne commençait pas la journée avant de lire le Times. Chose que personne ne faisait en son temps et jusqu'à aujourd'hui, je parle des rabbins de ce niveau-là. Parce que c'est ton métier. Moi, tous les jours, je regarde les informations sur le compte de mon étude. Parce que comment je peux parler du monde si je ne sais pas ce qui se passe dans le monde? Je ne suis pas un prophète. Donc c'est dans le cadre de mon métier, c'est différent. C'est pas idéologique. C'est pas que le rabbi a dit qu'il faut aller à la fac. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, si ton métier, c'est d'être un rave qui parle au monde entier, apprends ce que dit le monde. Nuancez ce que vous dites, vous parlez sans comprendre ce que vous dites. Adam pour aujourd'hui.